Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors ce 28e épisode d'Asialogie sera aussi consacré à la Chine, Didier.
Eh oui.
Et à sa bien triste révolution culturelle qui a fait suite au bien triste grand bond en avant de la semaine dernière.
C'est ça, oui.
Et pour nous en remettre,
oui.
Didier, on va se consoler avec toi en compagnie des pandas géants.
Ça devrait aider à se consoler, je pense.
Oui, je pense. C'est vraiment un trésor de mignonnerie.
Oui, voilà, c'est ça. Alors là, voilà, je pense que je plante le décor.
Tu nous mets dans l'ambiance directe.
On y est,
là.
Oui. Donc, pourquoi Mao a lancé cette révolution culturelle? C'est simple, ma question de base. Pourquoi?
Oui, je vais te faire la même réponse que pour le grand bond en avant.
C'est ça.
Hein, c'était tout simplement pour retrouver et consolider son pouvoir au sein du parti, plutôt mis à mal après l'échec du grand bond en avant.
On a compris qu'il en a besoin parce que ça a été un peu compliqué après.
Voilà, ça a été compliqué. Je rappelle, le grand bond en avant avec ses millions de morts, presque 50 millions, en 1961. Voilà, avec la famine.
Non, je suis quand même.
Alors, on se souvient que Deng Xiaoping et d'autres cadres souhaitaient des réformes économiques plus pragmatiques. Mais Mao considérait ces tendances comme des déviations révisionnistes mettant en péril la pureté du socialisme chinois. Il était toujours un petit peu, je dirais pas dans un délire, mais il persistait quand même. Il était un peu omnibilé par la pureté du socialisme, Mao.
C'est ça.
Alors, avec ce nouveau projet mis en œuvre un peu plus tard, donc 1966, il a cherché à neutraliser ses opposants politiques, à repenser la société chinoise en détruisant complètement les influences bourgeoises et traditionnel. Et comme il l'avait fait avec les masses paysannes, on se souvient de la Grande Marche, il voulait cette fois-ci, de la même manière, mobiliser la jeunesse et les masses populaires contre les élites du parti. En fait, il voulait monter contre les élites, la masse populaire.
On imagine
le mot
bien.
Masse populaire vient de là. Et l'objectif officiel était donc de lutter contre les fameuses quatre vieilleries, les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes.
Ah bah, du coup, Corinne, ça s'est traduit concrètement comment, pardon, cette lutte en fait.
C'est simple, c'est simple avec Mao finalement. Il a détruit les temples, les sites historiques, les palais, les œuvres d'art, des livres,
d'accord.
Des livres anciens
surtout.
Oui,
la tête, c'est vrai.
Et puis il a attaqué les intellectuels considérés comme contre-révolutionnaires.
C'est tellement
facile. Il faut savoir quand même, c'est une petite parenthèse, ils ont détruit énormément de choses. Mais comme il y avait, je dirais, la Chine était, je dirais, un trésor d'architecture, d'antiquité, qu'il en reste heureusement beaucoup et qu'aujourd'hui, c'est préservé.
D'accord. Voilà. Enfin, moi, ça ne l'excuse pas pour moi. Mais bon, voilà.
Ça n'excuse pas. Mais c'est pour dire que j'essaye d'imaginer qu'avant la révolution culturelle, ce que ça devait être.
C'est vrai.
Voilà. Parce que quand on est en Chine, on en prend quand même plein
déjà
les
plein
yeux.
Les yeux. Okay.
Voilà. Alors, cet épisode de l'histoire s'est traduit par une décennie de chaos avec des purges politiques et une destruction à grande échelle donc du patrimoine culturel et intellectuel chinois. Alors c'est la fanatisation et la mobilisation massive de la jeunesse qui a permis toutes ces atrocités. C'était l'époque des gardes rouges, Didier.
Ah, alors il va falloir que tu m'expliques qui étaient ces gardes rouges.
Eh oui, les gardes rouges, c'était principalement des lycéens et des étudiants entre 15 et 25 ans.
Ouais.
On a vu la même chose au Cambodge, après ça aussi, on pourra
d'accord.
en parler une autre fois.
Ouais.
Mais c'était donc des jeunes, très très jeunes, qui étaient mobilisés par Mao et je dirais galvanisés par les discours des jeunes, galvanisés par le discours du petit livre rouge.
Ouais.
Et ils se sentaient et étaient perçus comme les gardiens de la pureté révolutionnaire et avaient pour mission d'éliminer les éléments considérés réactionnaires de la société. J'oserais dire qu'ils se sentaient investis d'une mission divine.
Oui, D'accord, ils ont surtout eu un bon lavage de
cerveau. Entre guillemets. Ah bah tout à fait.
Okay.
Donc Mao les exhortait directement à s'attaquer aussi aux autorités du Parti communiste, soupçonnées de déviation idéologique au cadre du parti. Mais bon.
D'accord.
Mais bon. Il est quand même... Le parti, c'est le parti. Mm-hmm. Hein. Alors pendant 3 ans, les intellectuels et certains cadres du parti, les enseignants et les artistes vont être arrêtés, humiliés, parfois battus à mort par les gardes rouges, par ces gamins, je dirais.
Ouais.
Et il y avait des séances d'autocritique qui étaient organisées publiquement par ces gamins fanatiques et armés, il faut le savoir.
Ouais, d'accord.
Et dans certaines régions, les gardes rouges, de plus en plus radicalisés, parce que c'est le mot qui convient, organisaient des massacres de contre-révolutionnaires, particulièrement dans les grandes villes.
Ouais, moi, je sais pas, moi, ça me rappelle quand même des heures sombres de l'Europe, tout ça.
Ah,
bah,
ça, c'est des heures sombres. Ce sont des heures très sombres pour la Chine, de toute façon.
Alors, tu disais que ça a duré 3 ans ?
Oui.
Ouais, comment ça s'est terminé, en fait, cette mobilisation ?
Eh bien, à partir de 67, il y a eu des divisions, très vite en fait, un an après, il y a eu des divisions qui vont apparaître chez les gardes rouges, parce qu'ils vont soutenir, ils vont se rallier des dirigeants politiques différents.
Okay.
Et ces divisions vont entraîner des affrontements violents et plonger le pays dans une guerre civile urbaine, ce qui va décider Mao en 1969 à désarmer... les gardes rouges devenus incontrôlables.
Ouais,
et il va les désarmer avec l'aide de l'armée populaire du parti, dirigée par Lin Piao.
D'accord.
Pour ensuite envoyer ces jeunes en rééducation à la campagne. Ça, ça parle bien quand même.
La rééducation à la campagne, c'est ça.
Et il y a eu des millions de jeunes urbains qui ont été forcés de s'exiler.
D'accord.
Donc ils sont passés de gardes rouges portés au nu par le parti à, je dirais, relégués à la campagne, en exil forcé pour aller travailler dans les champs. Et bien évidemment, ils ont été aussi accompagnés de certains cadres du parti, de nombreux intellectuels qui ont été donc envoyés dans les campagnes pour être aussi eux-mêmes rééduqués.
Bah tiens.
Bon, il faut savoir que toutes ces personnes qui sont parties à la campagne, en plus de l'exil, ils avaient à supporter le manque de nourriture, les conditions de vie extrêmement difficiles, faire face aux maladies et à l'épuisement au travail.
On imagine que les camps de campagne, c'était pas le Club Med, ça c'est certain.
Non, pas du tout. Alors moi, je vous recommande un livre et un film écrit et réalisé par Dai Sijie.
Oui.
C'est Balzac et la petite tailleuse chinoise qui raconte l'histoire de deux jeunes qui n'étaient pas gardes rouges, mais de deux jeunes qui ont été rééduqués à la campagne et qui vont faire une merveilleuse rencontre.
D'accord.
C'est toute une génération donc qui a été sacrifiée.
On imagine bien. Oui.
Et des millions de jeunes ont perdu des années d'éducation, ce qui les a empêchés d'accéder à des emplois qualifiés plus tard. Beaucoup sont restés bloqués à la campagne pendant des années en développant de la méfiance et une désillusion vis-à-vis du parti qui les avait abandonnés et combattus.
D'accord.
Donc moi je vous propose une petite pause musicale de l'époque. C'est Socialism is good et ça date de... Socialism is good.
Ça sent quand même un peu la naphtaline, cette petite chanson, mais
vrai.
On est dans le contexte, quoi.
On est tout à fait dans le contexte, Didier, avec Socialism is good.
C'est ça. Moi, je ne sais pas si c'était toujours très bon, d'après ce que tu viens de nous dire.
Oui, mais ça partait de belles idées au départ.
J'imagine,
c'est tout le problème. C'est...
Oui, c'est vrai, c'est souvent comme ça. Alors, du coup, Corinne, est-ce qu'on peut considérer que la révolution culturelle était terminée en 1969 Est-ce que... Ling Piao, qui a mis fin aux gardes rouges. Enfin, tout ça, ça a clos cette révolution.
J'ai pas répondu à toutes tes questions.
Non.
Alors, malheureusement, non, Didier. La révolution culturelle va durer encore 7 ans, figure-toi, jusqu'à la mort de Mao.
D'accord.
Alors, je vais vous donner quand même quelques mots sur Lin Piao, qui est l'un des principaux artisans de la révolution culturelle, justement.
Mm-hmm.
Lin Piao, c'était un homme clé du maoïsme.
Mm-hmm.
Il était même l'architecte du culte de Mao. Et son bras droit.
Oui.
Il avait encouragé la radicalisation des gardes rouges au départ dans leur combat contre les élites du parti, soupçonnées de révisionnisme, pour ensuite combattre ces gardes rouges.
D'accord.
En fait, c'est comme ça. On crée des monstres en fait, qui finissent par dépasser celui
qui ne contrôle plus.
Voilà. Donc en 69, Lin Piao avait été désigné comme le successeur de Mao lors du 9e congrès du Parti communiste. Mais il aura une fin brutale, Lin Piao. Il y a des tensions qui vont naître entre Mao et lui. Lin Piao était partisan d'une ligne dure et d'une militarisation du régime, tandis que Mao souhaitait quand même ralentir la révolution culturelle. Je pense qu'il s'était rendu compte qu'il était allé trop
un
loin,
petit peu
Mao.
Loin,
Alors Mao finira par voir Lin Piao comme une menace. Et il va le marginaliser. Et Lin Piao va mourir le 13 septembre 71 dans un accident d'avion. Il s'est passé un peu la même chose à Cuba, avec un dirigeant aussi. Alors officiellement, Lin Piao aurait organisé un coup d'État contre Mao. Et après la découverte du complot, il aurait fui vers... C'est tout en conditionnel,
j'imagine bien.
Vers l'URSS avec sa famille, mais son avion se serait écrasé en Mongolie.
C'est ballot.
Voilà. Alors cette mort reste bien sûr un mystère.
Ouais, ça j'imagine bien. J'en plaisante, mais
c'est
on
pas affirmé. Ça reste en suspens, comme ça. Et Lin Piao sera quand même officiellement déclaré traître et criminel contre-révolutionnaire. Et son image sera effacée des livres et son nom banni. Voilà, et c'est précisément après la mort de Lin Piao en 1971 que la fameuse bande des quatre va tenter d'accroître son influence auprès d'un Mao affaibli.
Voilà, attends, il va falloir que tu m'en expliques un peu plus.
Oui.
Quels étaient les objectifs de cette bande des quatre?
Voilà. Alors, la bande des quatre, c'était un groupe de quatre, normal, hauts responsables du Parti communiste chinois.
Mmh.
Et ces quatre-là ont eu une influence majeure durant la révolution culturelle sur un plan, on va dire, c'était des théoriciens de la révolution culturelle.
D'accord.
Et ils ont eu une influence terrible jusqu'en 1976.
D'accord.
C'est Jian Qing, la dernière épouse de Mao, qui en était le chef.
Ah.
On l'appelait l'impératrice rouge.
La fameuse impératrice.
C'est ça, Jiang Qing.
D'accord.
Et cette bande des quatre a joué un rôle dans les purges politiques et la répression des opposants.
Mmh.
Ils voulaient empêcher tout retour à une ligne politique plus modérée.
Mmh.
Et après la mort de Mao en 76, ils ont été arrêtés et jugés comme responsables des excès de cette période de terreur.
D'accord. Bon, alors là, tu nous as parlé de leurs objectifs, mais alors, dis-nous plus sur qui étaient ces membres de la bande des quatre, s'il te plaît.
Bon, je vais pas m'étaler sur les trois premiers.
Oui.
Je vais surtout parler de Jiang Qing.
D'accord.
Il y avait Zhang Chunqiao, théoricien du PCC. Il y avait Yao Wenyuan, un journaliste propagandiste.
D'accord.
Et Wang Hongwen, qui était un ancien ouvrier propulsé au sommet du pouvoir. Ça, c'était quand même une spécialité du communisme, de faire remonter l'ascenseur social très facilement.
Social,
il y en avait, ça marchait très bien.
Mmh.
Et surtout Jiang Qing, donc la quatrième, ancienne actrice, épouse de Mao Tse-tung. C'est elle qui était la responsable de tout ça, de la révolution culturelle quand même.
D'accord.
Et qui a imposé une censure extrêmement stricte. Et elle a banni les œuvres qu'elle jugeait contre-révolutionnaires. Et seuls des 8 opéras modèles qu'elle approuvait pouvaient être joués en Chine pendant des années. Donc, on peut imaginer que c'était d'une pauvreté
culturellement
à cette époque. Ça devait être terrible. Alors, Mao va mourir le 9 septembre 1976 et la bande des quatre va tenter de maintenir son influence en s'opposant à Huo Guofeng, le successeur officiel de Mao.
Mm-hmm.
Décidément.
Et donc
Deng Xiaoping.
D'accord.
Mais face à l'armée populaire de libération du parti et au cadre modéré du parti, ils vont se retrouver isolés et ils seront donc arrêtés le 6 octobre 76 au motif d'avoir causé le chaos durant la révolution culturelle et d'avoir conspiré pour s'emparer du pouvoir, ce qui est vrai quand
Sûrement.
Et en 1981, après un procès très médiatisé, on en avait beaucoup parlé parce que c'est très récent quand même.
C'est vrai, ça l'est assez, mais je m'en souviens pas.
Ça a un peu plus de 40 ans, c'est
c'est ça.
Et donc après ce procès très médiatisé, Jiang Qing et Zhang Chunqiao ont été condamnés quand même à la peine de mort, commués en prison à vie. Wang Hongwen à la perpétuité et Yao Wenyuan, le journaliste, à 20 ans de prison.
D'accord.
Alors après leur chute, Deng Xiaoping va contrôler le pays et lancer les réformes économique et abandonnera l'idéologie maoïste. Alors, bien que la responsabilité de Mao soit évidente dans la révolution culturelle, c'est la bande des quatre qui a été vue comme la seule coupable et Qian Qing, l'impératrice rouge, se suicidera en 1980.
D'accord.
Bon, on va écouter Tong Yi qui nous chante une belle chanson chinoise, ça s'appelle comme ça.
Oui.
Merci Didier.
雪花儿飘，大地的金色是一片小条，小条的金色，只要梅花。 报晓，只有梅花，它能够知道什么时候春来到。寒风不断地吹，雪花不断地。 可是梅花呀，梅花，你几时才能报春晓？
C'était Tong Li, grande chanteuse chinoise. Moi, j'aime beaucoup, franchement.
Je préfère
c'est beau.
Ça, oui. Ça, j'aime bien. Oui. C'est doux, c'est agréable.
Enfin, quand je dis ça n'a rien à voir avec la révolution culturelle, c'est intemporel, Tong Li.
C'est ça.
Voilà. Donc après toutes ces horreurs de la révolution culturelle, Didier, un petit peu de douceur nous fera du bien.
C'est ça.
Alors, tu vas nous parler d'un animal étrange, très précieux, qui incarne pour moi la mignonitude absolue, un animal diplomate, le panda.
C'est ça, oui. Je vais tout vous dire, enfin je vais essayer, du panda et de sa diplomatie. Alors le panda géant, c'est un mammifère de la famille des Ursidés, jusque là...
Oui, ça fait partie des ours.
Voilà, mais avec un régime alimentaire herbivore. Sa taille adulte est comprise entre 1m20 et 1m90 pour une hauteur au garrot de 60 à 90 cm. Les mâles peuvent peser jusqu'à 150 kg et les femelles 120 kg.
Oui, ça peut être assez gros quand même.
Oui, tout de même. 1m90, quand on a ça en face et que ça fait 150 kg, ça peut nous calmer, c'est sûr.
Ça peut nous calmer.
Son espérance de vie est de 20 ans à l'état sauvage et de 30 ans en captivité. À l'état sauvage, il vit exclusivement dans les montagnes du centre de la Chine, à une altitude entre 1200 et 3500 mètres.
C'est un animal très particulier, Didier. Quelles sont ses caractéristiques ?
Alors, celui que vous connaissez tous, c'est son pelage. Il est toujours noir et blanc, ce qui lui permet de se cacher dans l'ombre des bambous ou sur la neige. Ce camouflage, il est essentiel pour échapper aux prédateurs naturels, comme les léopards des neiges. Puis il peut surtout attaquer les bébés, en fait. Il possède un sixième doigt, considéré comme un pseudo-pouce, qui lui permet de mieux saisir les tiges de bambou et de les manipuler. pour les casser.
C'est un animal particulier.
Oui, oui, c'est ça, pour les casser, les broyer. Il a des grosses molaires et une mâchoire très puissante.
Oui, parce que les bambous, c'est difficile à couper.
C'est ça,
hein.
J'imagine bien, j'ai jamais mangé cru, mais bon. Mais le panda a génétiquement un problème. Il a un métabolisme lent et une digestion inefficace, en fait. Et alors, du coup, contrairement aux herbivores classiques, le panda a un système digestif de carnivore. Il ne digère que 20% du bambou ingéré, ce qui l'oblige à en manger jusqu'à 40 kilos par jour.
C'est énorme, 40 kilos.
Ça fait, oui, je trouve que ça fait beaucoup. Et il mettra 14 heures à mastiquer, donc il fait ça sa journée, quoi. Son alimentation, c'est à 99% du bambou, hein. Il peut aussi manger quelques fruits.
Oui, donc c'est un paradoxe, en fait, le panda.
C'est ça.
Il a un système digestif de carnivore.
Voilà.
Et il mange.
Mais il a une vie d'herbivore.
Et une vie d'herbivore.
Du coup, forcément.
Sans avoir ce qu'il faut pour les digérer.
C'est ça, donc forcément, c'est plus compliqué pour lui.
Alors, comment il se comporte, ce petit panda? Enfin, ce gros petit panda.
Oui, c'est ça. C'est un animal.
C'est quoi son rythme de vie?
Ah, mais c'est un animal solitaire, hein, territorial et calme. Il passe l'essentiel de son temps à manger, à dormir, à se déplacer pour ses repas, pour chercher sa nourriture tout simplement. Être un panda, c'est manger entre 12 à 16 heures par jour, dormir entre 3 à 4 heures après chaque repas et explorer, se déplacer pour chercher du bambou. Ah, contrairement aux autres ours, le panda n'hiberne pas lui, hein. Car de toute façon, c'est simple, encore une fois, son alimentation ne lui permet pas d'accumuler assez de réserves de graisse. Il vit principalement seul, en fait. Bon, sauf que si, même si c'est un animal territorial, il évite les confrontations directes. Il préfère ignorer les intrus plutôt que se battre, en fait. Hein. Il peut grimper aux arbres dès l'âge de quelques mois. Il est un excellent nageur, mais surtout, tout ça, ça ne fait pas un grand sportif de lui. Hein. On a bien vu, hein. Il n'a pas la puissance.
Oui, puis les bambous, ce n'est pas très énergétique
c'est ça.
Aussi.
Oui, pour l'énergie, ce n'est pas le mieux. Son métabolisme lent, en fait, le pousse à économiser son énergie. Il ne court qu'en cas de danger.
Mais je pense que, bon, il est solitaire, mais sauf pour l'accouplement. J'imagine qu'il a quand même besoin de rencontrer... tu vas peut-être nous en reparler.
C'est ça. Mais enfin, déjà, la communication, en fait.
Oui, comment ils communiquent entre eux
en plus de
parce
leur...
qu'on ne connaît pas bien le bruit que fait le panda.
Ben non, c'est vrai que moi, à part l'avoir vu un peu au zoo, ça ne m'a pas permis de...
Il ne t'a pas appelé.
Non, c'est ça. En plus de leur langage en fait, corporel et du marquage territorial, les pandas communiquent de plusieurs manières. Ils grognent, ils couinent, ils crient pour exprimer leurs émotions. Et lors de la saison des amours, bien sûr, ils émettent des sons spécifiques pour se localiser, en plus de laisser des marques olfactives, quoi. Voilà, pour attirer la femelle à lui, quoi.
Alors, il semblerait que la reproduction et l'élevage des pandas est difficile.
Oui,
on voit ça régulièrement.
C'est très
hein.
difficile. Les pandas
reportages.
Ont très peu de libido. Et les femelles ne sont fertiles que... t'imagines, 2 à 3 jours par an. Alors,
c'est
tu conjugues
beaucoup,
les deux,
hein.
les deux oui. ça fait pas beaucoup. Les statistiques sont pas très bonnes à la base. Hein.
C'est ça.
Donc c'est très peu. Ils ont donc du mal à se reproduire à l'état sauvage, faute de se rencontrer au bon moment, puisqu'ils ne sont que 1900 aujourd'hui à vivre à l'état sauvage.
C'est quand même très
ça
peu.
Ça rajoute encore en plus à la difficulté.
C'est ça, ils sont pas nombreux.
Voilà.
2 à 3 jours par an et pas
voilà.
beaucoup de libido.
C'est, quand même. C'est pas simple.
C'est donc, pas simple.
La relation mère-enfant est très forte. Après la naissance, la mère s'occupe de son petit sans interruption pendant plusieurs mois dans une tanière. À la naissance, le bébé pèse 100 grammes. Peut-être que vous l'avez vu déjà des images. C'est tout petit, il est aveugle, il est sans poils, il est très
100
fragile.
100 grammes, c'est très petit. Oui.
Ben, on imagine que oui, la maman n'a pas beaucoup plus de force que de pouvoir avoir un enfant de cette taille. Le petit panda commence à marcher vers 3 mois. Il reste avec sa mère 18 mois. Si la femelle donne naissance à 2 petits, elle en choisit un seul à élever, car elle n'a pas assez d'énergie, encore une fois, pour nourrir les deux. En captivité, l'accouplement est souvent inefficace, et en fait, la reproduction se fait par insémination artificielle.
Oui, Didier, tu veux peut-être nous parler maintenant de la diplomatie du panda ? C'est quoi la diplomatie du panda ?
Alors, on sait tous que le panda, c'est un symbole de paix et d'harmonie en Chine. Hein. C'est le trésor national chinois. Voilà pourquoi depuis le 7e siècle, les Chinois offrent des pandas comme cadeaux diplomatiques. Ils symbolisent l'amitié et le respect envers les nations alliées. Par exemple, en 1941, la Chine a offert un couple de pandas aux États-Unis pour les remercier de leur aide contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est surtout avec Mao, entre,
entre
1950 et 1970 que la Chine va systématiser l'envoi de pandas comme un moyen d'améliorer les relations diplomatiques. Voilà.
Oui. Oui, c'est une vieille coutume en
c'est
fait
ça.
Qui se perpétue. Mais alors, paraît-il qu'aujourd'hui, la Chine, elle prête les pandas.
Oui. Ah oui.
Je dirais même peut-être qu'elle est loue.
Oui,
plutôt
c'est ça. On n'offre plus. Elle
n'offre plus
de
pandas.
Le cadeau diplomatique du prêt payant depuis les années 80 en fait, maintenant. C'est ça. En grande partie à cause du risque d'extinction du panda, aujourd'hui, la Chine les prête pour une période de 10 à 15 ans en échange d'une compensation financière élevée. Le pays hôte doit payer un loyer annuel d'environ 1 million de dollars par panda quand même. Hein.
Oui, c'est beaucoup.
Les bébés
annuels.
Pandas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les bébés pandas nés en captivité restent la propriété de la Chine et doivent être renvoyés avant leurs 4 ans. L'argent versé sert officiellement à financer les programmes de conservation du panda en Chine, quoi.
Alors, nous avons des pandas, nous, prêtés par la Chine aux eaux de Beauval.
Oui, je les ai vus une fois il y a quelques temps.
C'est à 160 km du Mans, je
c'est
le
pas
rappelle,
très loin.
Au sud de Blois.
Ils ont un magnifique enclos. Donc la France a voulu participer au plan de conservation des pandas.
Donc c'est nous qui avons voulu, oui.
Oui, c'est la France, oui, qui a voulu participer. En sollicitant un prêt, il a fallu donner la preuve à la Chine que nous étions compétents pour le faire. Il a fallu 5 ans de négociations.
Ah, quand même.
Oui, pour accueillir en 2012 Yuan Xi et Yuan Yuan aux eaux de Beauval, comme tu l'as dit. En août 2017, il y a eu la naissance de Yuan Meng.
Ah, ça n'a pas tardé.
Non, oui. Bah, écoute, on a fait ce qu'il faut. Le premier panda est né en France et qui a pour marraine Brigitte Macron. Puis il y aura des jumelles en 2021, dont du Yuan Doudou, qui a pour parrain Kylian Mbappé. Là.
C'est Yuan Doudou, c'est mignon
c'est
comme
ça,
nom.
Oui,
quand même.
Oui, ça va bien avec le petit...
Le personnage ouais, du
ça,
panda, enfin l'animal.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Yuan Meg, le premier bébé panda français, est parti en Chine en juillet 2023 au centre de recherche et de reproduction de Chengdu pour perpétuer son espèce, en fait.
Alors, est-ce que la Chine nous a aussi offert des pandas avant de nous prêter ceux de Beauval? Est-ce qu'on en avait eu avant?
Oui, on a eu
Est-ce que les États-Unis en ont eu?
C'est ça, oui, on a eu le droit à la diplomatie du panda en septembre 1973 lors de la visite officielle en Chine de Georges Pompidou. Et c'est Chu Enlai, le premier ministre et Mao, qui ont offert un couple de pandas, Yan Yan et Lily. Ils ont été accueillis aux zoos de Vincennes, mais ils n'ont pas pu se reproduire, en fait. Mais c'est facile, puisque Lily, en fait, c'était un mâle aussi.
Ça,
donc
c'est
bête. Ça simplifie pas l'affaire, quoi.
C'est sûr.
Le pauvre Lily, il est mort en 1974 d'une tumeur au pancréas. Alors, Yan Yan a vécu...
Oui. Titi Asialogie, c'est bientôt fini. Alors,
d'accord,
on va peut-être...
Je crois comprendre.
Est-ce que la Chine a prêté beaucoup de pandas à combien de pays la
Alors,
Chine
La Chine, elle a offert ou prêté des pandas à seulement 10 pays, dont le Japon, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis et la France, comme on l'a dit. Quoi.
D'accord.
Donc, bah, il faut savoir qu'elle peut les récupérer, ces pandas, si un pays prend une décision qui déplaît. Hein. Comme c'est arrivé en 2023 avec Joe Biden, cela pose question quand même sur l'utilisation des animaux comme outil politique.
Oui, bah Didier, on reparlera peut-être du panda parce qu'Asialogie, c'est fini.
Oui.
On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Rendez-vous samedi à 9h30 pour nous réécouter en podcast sur notre page Facebook. Et de toute façon, on se retrouve avec grand plaisir jeudi prochain à 12h. À la semaine prochaine et toujours sur Radio Alpa 107.3.
Belle semaine à vous.
À bientôt. Salut.